Fait que maintenant, c'est dit. On va accueillir tranquillement, pas vite, Corinne Cardinal et Louise, tu peux déjà te joindre à nous. Et comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On va pouvoir avoir une conversation encore plus intéressante grâce à vos réflexions et interrogations. Et je sens qu'on est obligé de monter l'écran, par exemple. C'est le moment, oui, c'est le moment limbo de la soirée. Merci encore de votre présence. Vous êtes tellement une belle crowd.
One, two, testing. Salut tout le monde, ça va? Y a-t-il des gueuleuses dans la salle?
Oui!
Là, je réponds moi avec.
Alors, on commence avec Corinne et la technique vocale. Bonjour. Alors, Corinne. Corinne, coach vocale, elle a fait ses études supérieures à démystifier les techniques vocales. C'est encore en processus aussi?
Bien, en fait, j'ai terminé mon mémoire, je l'ai déposé.
Bravo.
Et j'attends les corrections du jury. C'est un moment un peu long, j'ai bien hâte d'avoir terminé.
On souhaite le A+.
Exact.
En tout cas, tu vois le dévol de la maîtrise.
Exactement. Donc, ça va bien? Yeah! Je vais vous faire 3 techniques vocales. Bonsoir! Bonsoir! C'était une 3e technique aussi. Donc, la plupart des gens se posent souvent la question, c'est quoi cette technique-là? On fait juste crier, est-ce qu'on se blesse? J'ai étudié en chant classique, j'ai fait mon DEC et mon bac, et j'ai fait aussi les formations de Estill Voice Training, qui est plus axée sur la morphologie. C'est là que j'ai vraiment compris comment ça fonctionnait, le chant métal. Mais qu'est-ce que c'est, en fait, le cri? Comment on pourrait appeler ça? Est-ce que c'est du chant de gorge? Est-ce que c'est des cris? Est-ce qu'on appelle ça du growl, du fry scream, etc.? Moi, j'englobe ça dans le chant saturé. Pourquoi ça s'appelle saturé? C'est qu'il y a une saturation au niveau des fréquences. Oui, c'est très académique. Écoutez-moi paraître.
C'est ça que j'allais dire. Est-ce que vous nous entendez bien en arrière? Parce que nous autres, on vous entend très bien.
Donc, comme je disais, dans le chant saturé, il y a une saturation des fréquences. Donc, normalement, je vais déposer ma bière. Normalement, une note va faire une wave, et puis il va y avoir des harmoniques. Mais là, à ce moment-là, quand on fait la voix saturée, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de fréquences qui va créer soit de la distorsion ou une saturation à ce niveau-là. Je n'irai pas dans plus technique que cela. Et comme je disais, il y a 3 techniques de base, dont j'ai nommé le growl. On le connaît tous, le growl. C'est ce que j'ai fait en premier. Donc, cette technique-là. Ensuite, il y a le fry scream, dont je ne suis pas maître, qui était pas mal plus aigu. C'est vraiment moins fort aussi.
Surtout, c'est les vraies cordes vocales.
Oui, mais je vais l'expliquer dans pas long. Et puis, le harsh vocal, qui est un peu comme crier avec un vrai pitch. Donc, j'ai l'air de crier! Mais, ben oui, je crie, mais je crie pas réellement avec émotion. Souvent, on fait des faces méchantes sur scène. Mais c'est du acting, peut-être, pour la plupart des gens. C'est ce que je souhaite pour eux. Et donc, je vais vous expliquer la différence entre les 3 techniques de base. Il y a aussi le inhale, il y a des gens qui vont crier en inspirant, mais c'est un peu comme le fry scream. Je vais vous expliquer pourquoi, en fait, avant de rentrer dans plus de détails. Donc, le growl. Qu'est-ce que c'est le growl? On utilise les cordes vocales, qui se nomment en fait des plis vocaux, scientifiquement. Et on va utiliser aussi les faux plis vocaux, qui sont des membranes au-dessus des vrais plis vocaux. Ces faux plis vocaux-là vont se fermer et ils vont co-vibrer avec les cordes vocales. Donc, il va y avoir les deux. Si on analyse les fréquences, on voit très bien la fréquence des cordes vocales et la fréquence des faux plis vocaux. Donc, c'est ce qui va créer la saturation. Dans le cas du growl, la plupart du temps, il va y avoir des notes beaucoup plus graves. Ça va aller chercher un pitch en dessous. Donc, c'est pour ça que ça sonne... Et c'est beaucoup associé au death metal, qui est du chant beaucoup plus grave. Mais c'est une technique utilisée dans presque tous les sous-genres du metal. Donc, autant le black metal, c'est la plupart du temps du growl aussi, même si c'est plus...
C'est la même technique, mais pas le thème.
C'est vraiment selon le pitch, un peu comme le chant standard. T'sais, on va chanter grave.
C'est le moment très choquant, Corinne, et pour les initiés du metal, où comme, oh my God, les gens qui chantent du death metal et du black metal ont la même technique, même si ça y est un petit peu des fois.
Oui, mais ben, des fois, c'est ça. Ensuite de ça, le fry scream. En fait, je vais juste ajouter un truc pour le growl. Ce qui crée la distorsion, c'est la façon dont on va projeter l'air à travers les cordes vocales. Donc, ce ne sera pas de la même manière que quand on fait une note standard. Fait que cette note-là, je vais vraiment y aller comme si j'ai besoin de chanter, mais quand je veux aller faire du growl, je vais pousser mon air un peu comme si on faisait de la buée dans des lunettes. Donc, en même temps, de fermer les faux plis vocaux. Voilà. Donc, ça a l'air facile comme ça. Mais c'est sûr que quand on l'essaie, c'est difficile d'aller activer les faux plis vocaux sans avoir plein d'autres tensions. Donc, c'est pour ça que j'enseigne cette technique.
C'est pour ça qu'il faut être détendu et que ça n'a pas du tout l'air en apparence.
Non, mais il faut être détendu, tout à fait. Ensuite de ça, bon, le fry scream, la différence, c'est qu'on va projeter l'air de la même manière. Donc, comme ça, mais on n'utilise pas les faux plis vocaux. Et c'est un son qui va être beaucoup plus aigu. Donc, ceux qui connaissent Cradle of Filth, c'est cette technique-là qu'ils utilisent pour aller chercher des notes aiguës. Souvent, dans le deathcore aussi, ça va être utilisé. Les chanteurs vont mélanger les deux. Ils vont faire, je ne suis pas très bonne avec le fry, mais... Dans le genre, là. Mais avec un meilleur fry scheme. Donc, c'est vraiment... similaire au growl, mais sans les faux plis vocaux. Donc, on projette l'air de la même manière et ça va créer la distorsion. Finalement, le harsh vocal, c'est celui qu'on va utiliser les faux plis vocaux ainsi que les vrais plis vocaux, mais on va projeter l'air de la même manière que si on chante clair. Donc, c'est de la même façon, je pourrais chanter des gammes de la même manière, mais on peut avoir l'impression que c'est un cri aussi. Donc, quand je faisais « Hey, je crie! » Ben, c'est ça que j'utilise. Fait que c'est aussi ce qui est utilisé dans le chant de gorge la plupart du temps. C'est mieux quand c'est plus grave, mais moi, j'ai l'air d'un rasoir électrique. Mais voilà. Donc, ça, c'est les trois techniques de base. À partir de ça, il y a d'autres techniques, mais ce sont à partir de ces techniques-là. Par exemple, si on parle du pig squeal, je ne suis pas très bonne pour en faire, mais ça...
Et j'adore tant! Oh mon Dieu! C'est déjà de sonner comme un petit cochon, ça sonne un peu bête, là, mais c'est un des chants préférés.
Le pig squeal, c'est un son de cochon. On peut le faire en fry scream ou on peut le faire en growl et on peut le faire en exhale, donc en poussant l'air, et on peut le faire en inspirant. Moi, je fais pas de scream en inspirant.
Ah oui, je suis surprise que tu en parles, parce qu'il y en a beaucoup qui en parlent, comme quoi c'est pas sécuritaire, puis même on peut saigner des cordes vocales, l'air est poigné là-dedans.
Il n'y a pas vraiment de recherche là-dessus.
Ah.
Quand j'ai fait des recherches lors de ma maîtrise, je n'ai pas trouvé d'informations par rapport au NL. J'aimerais bien mettre une caméra dans la gorge de quelqu'un qui en fait. Pour voir vraiment le mouvement des cordes vocales. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'informations là-dessus, peut-être dans le futur. Donc, le inhale, on inspire. Exhale, on expire. Et par exemple, le pig squeal. Dans le genre.
Les cochons disent oui, oui, oui.
C'est ça. Oui, oui, oui. C'est tout simplement, là, ce que je viens de faire, c'est du growl, mais j'ai twisté ma langue, puis je vais chercher des harmoniques. À partir de là, ben, tous les autres styles vocaux vont découler de ces trois-là.
Oh mon Dieu, Corinne, tant qu'à parler d'animaux, là, on va prendre les animaux qui n'existent plus, les dinosaures. Tu sais, le bruit de T-Rex, ouais, là, mais... comment on le fait?
Ben là, ça dépend, là. J'imagine là, pour les noses, plus en fry scream, là.
OK, OK. Ah!
Wow. Dans le genre. C'était agréable.
Vive les ptérodactyles.
Hey, mais t'as déjà répondu à une des questions que j'avais en tête. C'était le lien entre les chants traditionnels et les techniques vocales. Finalement, il y a des transitions qui se font entre une tradition ancestrale et même à travers le monde. Là, on en a au Canada, mais il y en a aussi en Asie, en Russie.
Je pense pas qu'il y a vraiment de lien au niveau culturel, à part peut-être par pays. Il faudrait vraiment l'analyser. Là. Mais au niveau de la technique vocale, ça ressemble, comme je disais, au chant de gorge. Mais encore là, le chant de gorge, c'est vraiment vaste. C'est pas juste... Il y en a qui vont faire du chant harmonique, qui n'utiliseront pas les faux clivocaux, puis il y a plusieurs techniques associées à ça. Donc, c'est quand même vaste, puis je veux pas dire n'importe quoi là-dessus. Donc, on peut quand même l'associer pour celle-là, cette technique-là, mais sinon, le chant de gorge, c'est assez vaste.
Louise, oui. Toi, t'as appris comment à growler?
Bien, j'ai pas vraiment appris. Là, je t'écoute parler, puis moi, j'ai pas vraiment de technique, en fait. Puis ça me manque peut-être, mais c'est vraiment plus une énergie brute que je vais laisser sortir en chantant, en pratiquant ou en faisant des shows. Puis c'est plus à force de le faire que j'ai développé une façon sans nécessairement savoir si je le fais comme faut ou pas.
Bien, c'est comme ça que j'ai commencé moi aussi, en fait. Il n'y avait pas de formation de scream à l'époque. Je faisais des cours de chant classique, mais je voulais gueuler. J'avais un band plus power metal, et puis les gars ne voulaient pas que je scream. Parce qu'ils disaient que j'allais briser ma voix. Donc, j'ai parti mon propre projet, dans lequel je suis toujours, Valfreya. Puis, j'utilise pas mal toutes les techniques.
Mais moi, je trouve ça drôle quand tu as fait le cri de dinosaure tantôt à la demande de
Jolaine. Mais dans le déco, il y a beaucoup de T-Rex. Là, moi, j'adore assez ça. Là.
Mais quand je travaillais au HMV, dans la section métal, au Megastore, au centre-ville, à un moment donné, j'ai reçu un appel. Puis la personne au téléphone, je ne sais pas si elle est dans la salle aujourd'hui ou si vous le connaissez ou la connaissez, mais la personne au téléphone m'a dit... Ouais, t'as-tu de quoi à me proposer? Je veux que ça grogne comme un dinosaure! Mais moi, je pensais que c'était un de mes chums qui appelait pour me niaiser! Fait que je suis partie à rire, puis j'étais comme, ouais, man, ça va grogner! Mais c'était pas quelqu'un que je connaissais!
Tu as-tu vendu un album finalement?
Mais là, il était au téléphone, j'y ai fait une couple de suggestions, mais je l'ai jamais rencontré, mais en tout cas, s'il est là, je le salue.
On le salue, maison! Hey, dans la foule, je ne sais pas s'il y a des chanteuses, ça se peut que ça ne soit pas le cas, qui a envie de parler justement de son parcours, comment elle a appris à growler, à screamer.
Il y a pas mal de chanteuses dans la salle. J'en ai spoté une couple tantôt. Ils sont plus en arrière, ils sont cachés.
C'est absolument sans pression. Sinon, est-ce que des gens du public qui auraient des questions en tant que néophyte? Oui! Rapproche-toi! Oui, parfait. T'as le micro, vas-y.
Ouais. Dans le fond, moi, je chante dans un groupe de beatdown qui n'est pas très conventionnel. Puis, dans le fond, je suis la seule fille qui est dans mon band. Puis, justement, j'ai mes deux guitar players qui sont avec moi, justement. Puis, dans le fond, j'ai pratiqué, comme Louise, elle a dit, j'ai pas de technique. T'sais, j'ai pratiqué dans ma chambre, dans le fond, justement. Là.
Est-ce que tu pratiques avec un coussin pour pas déranger tout le monde?
Non, même pas.
Ça, c'est vraiment moi qui ai traumatisé, genre des murs minces de Montréal.
Ah non, moi j'ai demandé à mes voisins s'ils m'entendaient gueuler dans ma chambre, puis ils m'ont dit non. Fait que j'ai continué.
Ah, t'es chanceuse.
Oui, j'ai été très chanceuse. Fait que dans le fond, je me suis pratiquée. Fait que, parce que nous, on est comme on était DIY au début. Fait qu'on faisait tout do it yourself. Fait que là, moi, je m'enregistrais dans ma chambre, take after take after take after take. Puis...
Fait que c'est en temps d'enregistrant puis en t'écoutant aussi que tu as réussi à évoluer.
Vraiment.
Mais est-ce que tu t'enregistrais avec une cassette puis tu pesais sur Play non. Record?
Non, j'ai, non, okay, j'ai ça, vraiment... Moi,
oui, les différences générationnelles vont se sentir.
Non, vraiment, c'est avec mon ordinateur et un...
Sacré rock... C'est rock band? Ça se peut-tu que t'enregistrais? J'allais dire... Ah, est-ce que j'ai pas de Mac, ça paraît? Eh bien, merci beaucoup. Juste pour dire, c'était Catherine qui est dans No Hope Mankind. Hâte de te réentendre tantôt parler de la scène locale.
Je pense que la majorité des gens qui scream ont appris par eux-mêmes. C'est assez récent qu'on voit des tutoriels en ligne et qu'on a accès à de la formation. Il faut quand même faire attention parce que souvent, les gens qui s'interprètent comme professeurs, ils ne vont pas nécessairement donner les meilleures suggestions. Donc, faites attention quand vous regardez YouTube et peut-être aller justement voir sa liste. Très intéressant.
Ben oui, magasiner. Vous avez une valeur sûre, drette sur scène. Fait que c'est déjà bien parti.
Il y a Danielle qui
ouais,
a le
moi,
micro.
C'est. Nous autres, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de filles qui faisaient ça. Puis moi, je viens du cégep, j'enseignais le chant jazz à Saint-Laurent. Puis, une année, j'ai un élève qui arrive dans ma classe, puis c'est Marco Cagliari d'Anonymous.
Hey!
Fait que là, j'ai fait OK, moi, je vais aller voir ton show. Quand je suis arrivée là, j'ai pogné de quoi. Parce que là, pour moi, ça correspondait au texte que j'écrivais, mais je ne connaissais pas cette musique-là. Fait que moi, j'arrive d'un autre monde. Fait que là, j'ai appris à me recycler. Fait que moi, j'arrivais de l'école classique, j'arrivais des chants traditionnels bulgares, j'avais fait du gospel dans ma vie, je faisais du jazz. Fait que là, imagine là, l'occasion d'aller plus en profondeur dans l'anatomie du corps humain pour comprendre le fonctionnement. Fait que là, je me suis posé des questions parce que quand je faisais la cage de bruit, on arrivait d'un show, pas de moniteur, un son à chier, avec deux drums ou tu sais n'importe quoi, là, tu sais, des gros Marshall à l'époque, des cassettes. Puis, parce qu'on faisait nos cassettes, tu sais. Puis, fait que là, c'est comme. Là, j'essayais de trouver comment faire passer mes textes par-dessus ce mur de son-là. Puis à force de travailler avec. Tu sais, c'est le rapport entre. Ton soutien, tu sais, c'est vraiment le diaphragme puis les abdominaux. Quand tu rencontres les deux muscles ensemble, ça crée cette résistance-là sur laquelle tu peux t'appuyer pour aller chercher plus loin dans ta masse osseuse. Parce que c'est dans masse osseuse que tes fréquences des harmoniques...
On résonne du crâne.
C'est ça, je ne suis pas embarquée non plus dans tous les détails, mais il y a les résonances, les résonateurs du corps.
Puis ça, c'est ce que j'avais appris en apprenant les techniques de chant bulgare. Parce qu'eux autres, ils travaillent beaucoup avec les résonateurs. Fait que là, j'utilisais ça, puis comme tu dis, tu as les replis des cordes vocales qui te permettent d'avoir ce son-là. Puis là, après ça, d'après comment tu ouvres ta mâchoire, fait que tu joues avec ton texte, avec tes voyelles, comment tu es choisi, ou tu les mets plus longues, ou tu les mets plus courtes, pour avoir quelque chose de plus percussif ou plus tonal dans le son.
Par exemple, dans le death metal, souvent... ça va être du chant beaucoup plus grave et puis ils vont arrondir les lèvres et puis abaisser la mâchoire, ce qui fait que peut-être le texte va être moins facile à comprendre. Je chante comme ça! Vous avez peut-être rien compris, j'ai dit « je chante comme ça ». Mais fait que, tu sais, ils vont souvent utiliser ça, puis là, justement, c'est avec des résonances. Tu vas aller dans le plus aigu, tu peux monter, hein, tu faire des grimaces. Fait qu'il y a des petits trucs comme ça qu'on peut
exactement,
utiliser.
Puis ce qui était intéressant dans tout ça, c'est que d'après ce que tu veux faire sur le plan musical, sur le plan sonore, ton instrument, il y a la liberté. C'est ça, je te dis, c'est que c'est plus la voix qui porte le texte, c'est un instrument de musique, ton corps. Fait que là, tu peux aller créer des sons. Tu n'as pas besoin de porter un texte. Puis quand tu as besoin d'un texte, ben, tu vas chercher d'autres choses. Fait que moi, je ne me posais pas la question quel style je faisais. J'y allais avec ce que je ressentais. Puis
l'appareil phonateur, ce n'est pas pour rien qu'on dit un appareil, finalement.
Ouais, c'est un instrument
en soi. Voilà. Oui, un instrument avant et à cordes.
Fait que merci.
Voilà. Hey, merci beaucoup, Daniel, la cage de bruit. Vraiment... Daniel, je tiens à le souligner, mais parmi tous les projets répertoriés, Cage de bruit est probablement un des projets les plus champ gauche qu'il y a et un des plus, justement, champ gauche qu'il y a eu au Québec. Merci pour ce projet-là. Oh, on a une autre question, une dernière peut-être?
Oui,
vas-y.
Mais merci beaucoup de nous présenter tout ça. Moi, j'étais plutôt dans...
C'est quoi ton nom?
Alexandra.
Va falloir que le monde parle moins fort, parce qu'elle a quand même de la projection, mais pas super.
J'étais plutôt dans la scène métal locale quand j'étais adolescente. Oh. Ça fait longtemps. que j'ai pas, en tout cas, que j'ai pas écouté, que j'ai pas côtoyé des gens dans la scène. Fait que je trouve que ça fait vraiment du bien, puis surtout féminin, parce que j'avais, en tout cas, de mon expérience, c'était très, très masculin. Puis justement, ma question est par rapport à ça. Moi, c'est très subjectif, mais mon expérience avec les
gens... Surtout ton expérience à Côte-Nord, là.
En Côte-Nord,
la crowd ne le sait pas, là, mais quand même.
Oui, avec la scène black metal, c'est à Côte-Nord, justement. Puis dans les gens que je côtoyais, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de valorisation de... un contraste entre une chanteuse avec un chant très classique, très cristallin, très opéra et classique, et un contraste avec un chanteur qui growl, puis qui fait vraiment, tu sais, un peu, je sais pas si c'est le bon terme, mais ce que j'ai entendu, c'était comme Beauty and the Beast, puis ce que tu disais, que ton Ben, à l'époque, voulait pas que tu growl, ça m'a fait repenser à cette anecdote-là.
Il voulait pas que tu sois la bête.
Puis je me demandais si c'est ça, si c'est quelque chose que vous devez lutter dans la scène métal, ou bien il y a plus d'acceptation, peut-être que c'est juste vraiment spécifique à la scène que je côtoyais.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'acceptation. Il y a encore du chemin à faire pour certains trucs, mais en général, ça se passe bien. C'est sûr que moi, je suis grande, je suis quand même bâtie. Peut-être qu'une fille qui a l'air toute douce, toute féminine, va peut-être... se faire regarder de haut des fois par les promoteurs, etc. Parce qu'en plus de chanter, ben, il faut faire de la gestion de Ben aussi. Là. Mais je pense que ça s'en vient. Et puis, c'est surtout à cause des réseaux sociaux. En voyant qu'il y a des femmes, de plus en plus de femmes qui chantent, ben, ça donne des exemples aux femmes et ça leur montre que c'est possible. D'ailleurs, dans mes élèves, il y a autant de femmes que d'hommes. De tous âges, et donc...
Dont certaines qui sont dans la salle, et dont la chanteuse de Capitule, qui était une de tes élèves, et qu'on va entendre, et qui chante clair, et qui growl, pour moi, c'est aussi un bon exemple de toute la diversité que l'appareil fondateur peut nous offrir, et comme truc pour les personnes plus petites, ben, la technique de foncer comme un taureau, la tête baissée, c'est quand même pas super. En tout cas, ça marche dans les mosh pits, là, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je dis pas, là, mais la vie est un mosh pit. Hey, merci beaucoup, Alexandra, pour ta question. Alexandra, qui est aussi autrice, je vous suggère fortement ses livres, et qui est vraiment fantastique dans la notion de transition. Elle parlait de la scène locale. Parlons de la scène locale. Louise, chanteuse de Hands of Death, qui est de retour. Ça faisait combien de temps que vous étiez en pause?
Léonie a 12 ans. Ça faisait 12 ans.
Wow!
J'avais fait mon dernier show. J'étais enceinte de 8 mois de Léonie.
Wow! Quand tu comptes le temps d'absence d'un Ben en âge d'enfant. Wow!
Ben, j'avais dit aux gars, profitez-en pour composer, mais ils m'ont entendu finalement.
Oh, cute!
Mais oui, c'est ça. On avait fait une pause de 2011 jusqu'à l'automne passé. Donc, on a recommencé à faire des shows là, cet automne.
C'est vraiment un plaisir de recevoir Louise parce que, mon Dieu, cette semaine, tu as été proclamée mémoire vivante du métal québécois. Fait, tu as
j'étais vraiment. Vraiment honorée du titre gardienne de la mémoire
gardienne,
de la scène
locale. Comme gardienne d'enfants, oui, c'est une garderie, là, on a envie de t'écouter comme ça, là.
Mes enfants, là! Mais c'est drôle parce que le Dominique Castelli du Jailhouse Rock Café il m'avait appelé Metal Mom à un moment donné parce qu'il trouvait que je prenais soin de la scène locale. Fait que là, en plus, la gardienne, écoute, finalement.
Mais là, t'en prends soin.
Je suis une
soin?
Vraie petite mère, finalement.
Wow! Mais t'en prends soin puisque tu vas nous en parler. Puisque en ce moment, ben, tu es en train d'écrire le deuxième volume de l'évolution du métal québécois.
Oui, exact. Je travaille sur la suite que Félix Desfossés a écrit. Félix a écrit vraiment les racines de la scène métal. Il a parti son livre en 1964, il a arrêté en 89. Fait que moi, je repars de 1989, puis je m'en vais jusqu'en 1997. Puis là, plein d'anecdotes de bandes. J'ai interviewé plus que 100 personnes, 150 personnes facilement.
Hey, je sens que l'attention est présente et palpable et je trouve ça très agréable. C'est juste que là, il y a un moment technologique, il faudrait redescendre l'écran pour un merveilleux visuel pour Louise. Il
faudra qu'on s'avance.
Oui, j'allais dire, ça va comme créer une petite pause involontaire. Mais si ça vous donne l'occasion d'aller aux toilettes, boire un petit breuvage, c'est quasiment le temps.
Bien, je me suis amusée à faire un PowerPoint, en fait. Ça m'a aidé à... On peut se tasser,
on va tout s'avance.
ça va ressembler à... Tu sais, au Café Chaos, dans le sous-sol, là, que tu touches la tête au plafond comme ça, là. Fait que je me suis amusée à faire un PowerPoint parce que comme ça, ça m'a permis de synthétiser mes idées. Alors, ben pour vous mettre en contexte...
Est-ce que tout le monde est réattentif de retour? Sinon, on peut vraiment prendre un 5 minutes si vous en avez besoin.
Avez-vous besoin d'une pause?
Non, alors, go! Alors, merci pour le silence.
OK, parfait. Ben pour vous mettre en contexte, dans le fond, ben moi, je suis née en 1975. Donc, t'es une cuvée 75, toi aussi. C'est une belle année. Fait que pour vous mettre en contexte, moi, quand je suis adolescente, quand j'ai 14 ans, on est en 1989. Et puis, les modèles féminins en 1989, j'ai deux options. Oh. Est-ce que tu es prêt pour la prochaine? La première option, c'est devenir une pitoune dans un band. Girls, girls, girls. La deuxième option, devenir une pitoune dans un band. Fait que les options, c'est être une pitoune ou une pitoune. C'est pas mal ça, les options. Comme vous voyez, j'ai opté pour ni un ni l'autre.
Pour le patrimoine et l'audio là, qu'on va préserver, Louise porte des dreads et un gaminet et des jeans.
Ouais, on dirait que j'ai voulu absolument faire le contraire, en fait, parce que je me disais, ces femmes-là, elles veulent absolument être sexy pour se faire aimer. Moi, je vais faire exactement le contraire. Je vais vouloir que les gens m'aiment pour qui je suis. Puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. fait qu'à gauche, c'est Lee Aaron. On va commencer le cours d'histoire.
Yeah.
À gauche, c'est Lee Aaron, une Ontarienne qui a lancé en 1984 un album qui s'appelait Metal Queen. Fait que c'était très chanté, très rock, mais c'était les années 80, c'était très hard rock, c'était très heavy metal. Et puis à droite, c'est Lita Ford. Ça, c'est la pochette de son album Suck for Blood, quelque chose comme ça, je m'en souviens pas par cœur. Mais c'était sorti en 83, mais Lita Ford, une super bonne guitariste, une super bonne chanteuse, mais toujours ce look super sexy. Donc on peut aller à la prochaine planche. J'ai sorti quatre rockers québécoises, vraiment dans les débuts du rock. Diane Dufresne, dans les années 70. C'était quasiment une gueuleuse, Diane Dufresne.
Oui, bon, mon spectre est très large dans le gueulage. On analyse le tout.
Diane Dufresne, Marjo, Sandra Dorion de Nuance, France D'Amour aussi. Les rumeurs voudraient qu'elle s'appelle D'Amour parce qu'elle aimait beaucoup Piggy D'Amour.
Ah!
Parce que ce n'est pas son vrai nom, France D'Amour.
On ne va pas dévoiler le secret ce soir.
On ne dévoilera pas ce soir. Donc, c'était dans les années 70-80, France D'Amour un peu plus tard, dans les années 90. Mais tu sais, ça, c'est elles qui se démarquaient, qui ont joué à la radio, qui étaient plus médiatisées. On va aller à la prochaine.
Puis,
vous
quand même souligner aussi, comme même à l'international, il n'y a pas nécessairement beaucoup de gueulage non plus. Même quand on pense au punk, on dit qu'il est né en 77, ça chante quand même. Ça chante fort, mais ça ne crie pas.
Fait que c'est sûr, là, on est vraiment dans les débuts. Fait qu'il y a des styles de musique, le death metal n'existe pas encore.
Non, 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 il faut attendre la fin des années 80.
C'est ça. On peut aller à la prochaine image, s'il vous plaît. Donc, il y a des groupes de filles qui étaient... Pourquoi on dit des groupes de filles, hein? C'est pas des groupes rock, non, c'est des groupes
ouais,
de filles.
J'ai hâte qu'on puisse dire des groupes de garçons et on fasse... Hey!
Un groupe de garçons?
Ouais, wow! Original!
Ben, en fait, en haut à droite, c'est le groupe Princess et c'est une chanteuse et quatre musiciens. Vous voyez que le look des années 80 était assez semblable quand même pour les gars ou pour les filles.
Mais toute la réflexion sur le genre aussi existe depuis longtemps dans le métal, la confusion des sexes.
Oui, puis tu sais, dans les années 80, les gars aussi étaient pitounes, là, tu sais. Vince Neil, Bret Michaels, tu sais, ils se maquillaient, ils se crêpaient le chignon, puis tout, là. Fait que ça, c'est dans les années 80, 87, Princess,
qui était basée à Montréal. Ils ont fait la première partie de Nazareth au Spectrum. À côté, en bas à gauche, c'est les filles de Barbarella. Ils ont sorti un album en 91, puis ça, c'était un poster dans 7 jours, quand même.
Wow. Est-ce que tu le dépliais, tu peux le mettre comme sur ton mur de chambre?
Non, tu peux le découper puis le mettre dans ton portefeuille.
Tu la traînes toujours avec toi, merveilleux.
C'est ça. Il y avait beaucoup de groupes hommages aussi dans ces années-là. Donc, Moonshadow, ça, c'était un groupe hommage qui avait fait justement un spectacle pour des clubs de bikers.
Hey, pour d'autres... All-female band, là, pour ne pas dire l'expression. Au Québec, il y a eu Blue Oil, qui était le premier band punk aussi, qui était juste des filles. Et ils chantaient clair. On n'est toujours pas encore au gueulage.
C'est ça, exact. Mais voilà, on peut aller à la prochaine. S'il vous plaît. Donc, dans les années 80, là, le métal commence à faire son apparition. Mais moi, ces deux groupes-là, ils sont sortis en 84, 85. Moi, j'ai juste 9, 10 ans. Fait que là, je les connaissais pas à l'époque. Donc, Trop Féroce avec Ginette Féroce au vocal.
Pour de vrai, on la salue très fortement. C'est dans nos premières rockeuses.
Oh, oui. Vous irez taper Trop Féroce sur Internet. C'est vraiment c'est avant-gardiste pour les années 80. Là. C'était vraiment quelque chose. Messiah Force, qui était vraiment plus dans la vague New Wave of British Heavy Metal. C'est un groupe de Jonquière qui ont fait un retour l'année passée, d'ailleurs.
Ah, oh, ouais. Ça faisait combien de temps que je jouais pas?
Je sais pas, 30 ans.
Oh, 35 ans.
35 ans, c'est ça. Donc, c'est ça, là, j'étais trop jeune pour les connaître, mais il y a quand même ces groupes-là qui existaient, là, qui étaient plus dans la veine
de New Wave. De tout ce que je vois, Louis, c'est que le grindcore se fait attendre.
Oui, ça s'en vient.
Prochaine planche. Si tu devais t'ennuyer dans ta jeunesse, là, ça ne te rapproche pas beaucoup de tes styles.
Mais là, j'ai mis James Hetfield parce que en fait, c'était lui mon modèle. J'avais pas de modèle féminin. Fait que je l'ai inclus ici. Moi, mon rêve, c'était de chanter comme lui, d'être capable de chanter puis jouer de la guitare en même temps. Puis Nubeden en plus. Parce que moi, ben Simon, mon frère, il est là, il va pouvoir témoigner. J'étais tout le temps Nubeden. Mais on était tout le temps, moi, mon frère puis mes cousins. Donc j'étais toujours avec des gars. Les gars étaient toujours Nubeden, puis moi aussi. Jusqu'à temps d'avoir des seins, là, jusqu'à 10 ans peut-être. Là,
ben, je partage ton enfance. Moi aussi, j'étais tout le temps à Bédène.
On est bien en Bédène.
Ouais, j'espère que tout le monde aussi a passé son enfance à Bédène. C'est la meilleure enfance.
quand j'ai parlé avec Stéphanie Masson, que je vois, là, qui prend une gorgée.
Oh, Stéphanie, qui est arrivée! Quand j'étais dans November Grief.
Quand j'ai parlé avec Stéphanie, elle me disait qu'elle, son idole, c'était Steve Harris. Elle voulait devenir... Steve Harris, le bassiste de Iron Maiden. Les autres filles, y en a-tu levé la main ceux qui avaient des idoles féminines?
Ça va mal.
Levez la main ceux qui avaient des idoles masculins. C'est ça, on n'avait pas beaucoup de modèles. On peut aller à la plage suivante, s'il vous plaît. Merci. Fait que les idoles féminines ont commencé à apparaître vers 92 à Musique Plus. Il a commencé à avoir du L7, il a commencé à avoir du Ball Thrower puis du White Zombie. Là, j'étais comme « Oh yes, il y a d'autres choses qui se passent. » Puis Luna Vachon est arrivée dans WWF avec sa voix de chat! Elle voulait toutes les arracher! T'es une fan de lutte?
Oui, je sais qu'il y a plus de fans de lutte que de gens qui ont passé leur enfance à Bédène. Par applaudissement. Oh, regarde.
Fait que c'était quand même quelque chose, tu sais, ça sortait du lot. Mm-mm. On peut aller à la suivante. Il y en a une qui est sur l'affiche puis qui est dans la salle aussi. Je m'en viens vers toi. Selon moi, une des premières gueuleuses... C'est Tamiko, la chanteuse de Capitalist Alienation.
Que je vais ajouter, j'hésitais encore sur les enregistrements, à quel point elle gueule ou non, mais c'est vrai qu'il faut ajouter Capitalist Alienation, qui ont réédité leur album l'année dernière.
Oui, je pense.
Mais mon Dieu, le plus triste de la chose, c'est que j'ai su par le groupe qu'ils n'ont plus de nouvelles de la chanteuse, fait qu'on ne sait pas où. Désolée.
Je ne sais pas. Si vous la trouvez, appelez Jolaine.
Oui, dis bonjour.
Oui, c'est ça. Donc, Chantal, la chanteuse de Overbass, salut! Chantal qui a mentionné avoir vu Capitalist Alienation en show, genre 85, 87, quelque chose comme ça, si tu veux compléter l'histoire.
Mais oui, approche-toi.
Approche-toi, Chantal. En fait, le bassiste de Capitalist Alienation, c'est Joël. C'est lui qui est parti fonder Overbass après. Donc, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Parce qu'avec Overbass, vous faisiez aussi des chansons de Capitalist Alienation en show.
Ah, wow! Je suis tellement heureuse d'entendre
ça. Salut!
Salut, Chantal!
Salut, Chantal! Merci de ta présence. Voilà. Oui!
Juste vite, vite, là, pour dire, Tamiko est en Italie, en fait.
Ah! On a une réponse déjà!
Ça aurait été difficile qu'elle vienne.
Mais voyons!
L'album a été réédité en 2021, je pense. Ouais, c'est ça. Ils ont refait un... Même ils ont remasterisé parce qu'on s'entend que ça avait été enregistré avec un tape cassette.
Mais oui, avec une belle pochette de Oui en plus.
Oui, on refait une pochette. Fait que c'est ça. Donc, ils ont réédité l'album. On a essayé d'entrer en contact avec Tamiko, mais Tamiko a vraiment mis une croix sur ces années-là, malheureusement.
On respecte tout ça.
Mais oui, puis aussi, oui, effectivement, je les ai vus au bar chez Gagnon. J'avais 11 ans.
Wow.
Ça a été, en fait, je peux pas dire que c'était mon idole parce que je suis même pas sûre que je savais que c'était une fille. Premièrement, je voyais rien. Je mesurais 4 pieds et demi. Puis c'est ça. Puis elle gueulait, elle gueulait, elle gueulait. Puis en fait, c'était surtout ça le plan, qu'on sache pas que c'était une fille. Tu sais, qu'il fallait que tout le monde pense que c'était un gars parce que sinon, les gars n'allaient pas l'écouter.
Oh mon Dieu, c'est tellement triste.
Fait que c'est ça. Puis me Say à Force aussi, je les ai vus d'ailleurs. Moi, je les écoutais, je viens de Chicoutimi.
Oui, c'est ça. C'était dans ton coin. Puis en quelle année vous avez démarré Overbass?
En 92, oui, c'est ça. Moi, je suis rentrée un petit peu après, mais ouais. Puis on a fini en 2013, on est revenu en 2015 puis en 2018 pour faire une couple de shows, mais c'est pas mal fini, là, mes années rock.
Ben moi, je pense que ça vaut la peine d'applaudir, Chantal, parce que tu as été vraiment impliquée dans la scène et tu l'es encore. Elle a été bookeuse longtemps au Fouf. Elle a fait le tour du Québec des nombreuses fois. Bravo, Chantal.
Merci.
Tu as défoncé des portes.
Merci, puis je suis vraiment contente que vous ayez fait ça. C'est fucking cool. Là. Quand on regarde, il y en a. Là. Tantôt, je suis rentrée, j'étais comme, crime, il y en a donc bien des filles. Avant, on était quatre. Toi, moi, puis Masson.
Mais vous êtes toutes dans la salle. C'est merveilleux. Quel moment. Ouais. Ça faisait combien de temps vous n'étiez pas vus, toi et toi?
Bien, on s'est écrit quand
ouais,
même.
On s'est écrit, on se parle, mais ouais.
Mais en personne.
On se voyait pas souvent.
En personne, ça faisait un bout.
Ouais. Mais wow! Ah, ça,
merci
c'est un
de nous rassembler. Ouais.
Oui, yeah. Vraiment.
Mais pour dire, dans le temps, on était quatre. Là, j'ai regardé dans ta liste, puis dans les années 90, là, mettons de 1989 jusqu'à 1999, dans ta liste, j'ai répertorié genre 12 gueuleuses au Québec. Puis moi, dans mon travail sur le livre de l'évolution du métal québécois, j'ai recensé 650 bands.
Wow!
Donc, sur 650 bands, il y a 12 filles qui chantent. Fait que je pense qu'on mérite une main d'applaudissement. Il y avait des filles qui jouaient des instruments quand même, là, mais on était très, très minoritaires dans la minorité.
Effectivement. Stéphanie, veux-tu venir dire un mot de November Grief?
Bien, il y a sa planche November Grief qui s'en vient. C'est la prochaine. Wow. Vas-y, Télésino.
Ben, pour ceux qui ne le savent pas, November Grief... Oh! Ah oui! Ah, je suis en train de te couper, mais rapproche-toi,
Stéphanie.
On veut t'entendre.
Bien, moi, dans le temps, je n'ai pas connu Tamiko, mais ma première gueuleuse que j'ai entendue, c'est Stéphanie Masson.
Et on se connaissait du temps du secondaire.
Exact.
Ah!
Fait que moi, j'étais bien impressionnée parce que j'étais en secondaire 4, puis Stéphanie était en secondaire 5, puis sur l'heure du midi, elle a fait un show, un hommage aux Ramones.
Oui!
C'était malade! Moi, j'avais la mâchoire ouverte, j'étais comme... Oh, wow! Après ça, on s'en allait voir des feux d'artifice. On allait en dessous du pont Jacques-Cartier, checker les feux d'artifice. Puis on amenait un radio cassette, puis il y avait du Dead qui jouait, puis elle chantait toutes les paroles par-dessus, puis j'étais comme « Oh, wow! »
Mais c'est vraiment cool, l'événement, le site et tout, puis non, vraiment, c'est que tu continues à garder la mémoire, là, c'est vraiment, vraiment fucking hot. Merci. Merci beaucoup.
Mais toi, que tu continues de garder la bass et la voix, je suis vraiment fière que vous ayez fait un comeback en plus, là, dernièrement.
Mais oui,
c'est vraiment
après 23 ans, 26 ans d'absence.
Dernier show, ça avait été en 97. Puis le show de retour, ça avait été 2022. Fait que c'est un 25 ans bien timé.
Wow!
Vraiment.
Oui, les applaudissements, c'est très clair. Hein? Pour tous ceux qui ne connaissent peut-être pas autant la scène locale, moi, j'ai envie déjà de valider l'information. Est-ce que tu serais le premier all-female band de dead metal au Québec?
Possible. Au Québec, oui, possiblement. Là, j'imagine.
Moi, je dirais que oui.
C'est proclamé ce soir! C'est la première!
J'imagine! Ben là, je veux pas dire la première aussi, parce qu'il y a toujours en quelque part, mais j'imagine que oui. Il n'y avait pas d'Internet en plus dans ce temps-là. Fait que,
mais c'est vrai que moi, j'étais très émue de voir ton retour dans les dernières années. Et pour la petite anecdote, pour les gens qui sont des habitués du quai, ben, y a une serveuse qui s'appelle Véronique Lambert. Et dans le groupe, il y avait une guitariste qui s'appelle Véronique Lambert.
Oui.
Moi, quand j'ai fait ma recherche, j'étais comme « Oh my God! » La serveuse du quai, elle faisait du tas de métal. Mais finalement, c'est pas la même personne.
Mais notre Véro...
J'étais
notre
tellement excitée là, pendant un quart d'heure. J'étais en train de réaliser que c'était pas la même personne. Mais je t'aime beaucoup, Véronique. Je t'ai imaginé une autre vie.
Notre Véro, elle reste en Gaspésie. Là.
Mais on la salue. On la salue.
Oui, absolument. Absolument. Salut, Véro. Salut, les anciennes. Oui,
effectivement. Ça,
salut,
ça
Chantal.
Pas,
salut, Annie.
Pas de confusion. Elles sont très loin.
Fait qu'est-ce qui était particulier justement de November Grief, c'est que c'était vraiment du death metal, c'était vraiment du doom, fait que c'était vraiment dans les premières filles à faire ça, pas juste au Québec, mais au Québec, oui, je pense que tu étais dans la première batch. Parce que ça a été mon introduction à des vocales death.
C'est tellement d'une chewy comme anecdote.
Merci Steph.
Ben oui, ça me fait plaisir, puis encore une fois, ben,
merci de ta présence, cool, complètement.
Cool. Yes.
Merci. Sur la prochaine planche, j'ai mis un groupe qui n'est pas death metal puis qui n'est pas une gueuleuse, mais la drummeuse de ce groupe-là, Catherine Ranger, maintenant joue de la guitare avec Stéphanie dans November Grief. Et ça, c'était son groupe Slightly Mad, donc un autre groupe composé de quatre musiciennes et chanteuses, mais c'était plus chanté justement, mais c'était des super bonnes musiciennes qui ont partagé la scène justement avec Overbass, November Grief, entre autres. Là, j'ai sorti mes archives, j'ai sorti le flyer. Fait que je les salue, les filles. Je ne sais pas s'ils sont là. Catherine, es-tu là finalement? Es-tu là, Kat?
On salue Kat.
On peut passer à la prochaine planche, s'il vous plaît. Donc, dans le death metal, il y a aussi eu Marie-Pierre Geoffrion, qui était dans Amnio Reexis et dans Human Greed. Marie-Pou a aussi chanté Feeding on Human Flesh avec Necrotic Mutation. Je ne les ai pas vus souvent en show. Leur carrière n'a pas été très longue, mais quand même, c'est toujours ça détonne. Hein? Une fille qui est sur le stage, là, on est en 1992, fait que ça détonne.
Oui, et c'est bien gras, bien.
Bien
crasseux aussi comme musique, là.
Exact. En voulez-vous d'autres? OK, on continue. La prochaine s'appelle Marie-Hélène Landry.
Oui, on l'applaudit!
Elle est ici, elle aussi, ce soir. Tu peux t'approcher, Marie, si tu as envie de jaser. Quand Marie-Pou n'était pas disponible pour faire Feeding on Human Flesh sur le stage avec Necrotic Mutation, c'est Marie qui montait sur le stage pour la faire. Mais Marie, je ne l'ai pas connue sur le stage comme ça. En fait, on s'est connus au métro Longueuil.
Wow!
Ben écoute, on n'était pas beaucoup de filles qui rock, hein, fait qu'on se spottait. Puis on s'est spottés.
Toi puis Simon, vous étiez facile à spotter. Là. Dans les shows, on voyait les deux, puis on disait « Hey, c'est la fille qui trash! C'est la fille qui trash! »
Oui, mais ça, c'est vraiment drôle, parce que ça a été mon surnom. Avant qu'ils me connaissent, ils me surnommaient la fille qui trash, parce que j'étais la seule fille dans le
mosh pit. Mon Dieu, mais pourquoi j'ai pas ce surnom-là dans la vie?
Sur les 8 filles qu'il y avait dans le show.
C'est ça, il y a 500 gars. Il y a 500 gars, 8 ou 12 filles, puis moi, je trash.
Wow!
Mais Marie, ça a été une grande influence aussi pour moi, parce que tu as commencé à chanter, tu étais quand même assez jeune. Ton premier show, tu avais quoi? 15, 16?
J'ai commencé à 15, mon premier show, 16.
Oh
Dans un bar, j'espère.
C'était à l'Underworld, t'étais là.
Ouais.
Fait que c'était sur Henri Bourassa, là, c'était légal, là. Mais mon deuxième show, c'était au Fouf, puis j'avais définitivement pas l'âge.
Ben, je me souviens des réactions des gars dans la foule. C'était comme, hey, hey, c'est qui le chanteur? Hey, t'as-tu vu le chanteur? C'est qui qui chante? C'est qui le chanteur? Ah, c'est la petite. C'était Marie.
Ouais, oui.
Puis Marie, elle chante encore aujourd'hui dans Obsolete Mankind, mais elle a aussi chanté dans Despise Icon, qui est un groupe qui fait le tour du monde maintenant. Puis c'est toi qui composais les paroles des premiers albums avec eux.
Les paroles en français, c'était moi. En anglais, c'était Steve. Mais tu sais, 90 % des fans de Despise ne sont même pas au courant qu'il y avait une fille dans le band. Puis c'est eux autres que j'ai eu le plus de hate ever. Oh! C'est les fans de Despise. « Ah, con, il n'y a pas de fille là-dedans! » Puis les commentaires que j'ai eus, c'était comme... Il y en avait qui étaient très drôles.
On veut un commentaire drôle qui était méchant, qu'on rit encore plus.
Non, mais c'était comme, the singer isn't really pretty, but I still want to fuck her. Ah oh, oui, c'était, il y en avait plein des beaux comme ça, c'était très intéressant.
Mais celui-là, il n'y a personne qui me l'a dit pour toi, par exemple.
Ah, ah bon.
Parce que... Dans le temps, Marie avait des dreads, puis souvent, je recevais les commentaires pour elle. « Hey, c'est toi la chanteuse de Despise! » Non,
juste à cause de vos cheveux.
Oui, oui,
parce qu'on est pareil, moi puis Louise.
Très, pour tous ceux qui ne sont pas proches de Marie-Hélène, non.
Ils nous regardent, puis ils ne sont pas capables de nous différencier.
Eh boy.
Fait que c'était super bon ton show, je vais y faire le message.
Mais quoi, tu l'as déjà booké, tu m'as dit, durant une des journées internationales des droits des femmes?
Oui, ça, je pense qu'il faut en parler. Oui. Parce que
c'est très dadon avec la journée.
En 2002, je crois, c'était Despise Icon à la Foin. C'était la foire du disque indépendant. C'était la Sopref qui organisait ça. Puis moi, j'avais proposé que ce soit Despise Icon qui joue. Il y avait aussi Liva qui jouait, parce qu'il y avait aussi une chanteuse. Et c'était la journée internationale des droits de la femme. Et Marie, sur le stage, en deux tunes, qui dit « Bonne journée de la femme à tout le monde! » Puis moi, je suis en arrière, puis je crie « Yes, sir, mon homme!
» Puis on est tellement habitués de s'appeler mon homme, puis man, que moi, je réalise même pas. Je suis comme « Yeah, ouais! » Après ça, c'est quelqu'un qui m'a le fait remarquer. « Ah, journée des droits de la femme. Yes, sir, mon homme. » Je suis comme, « Ah, shit!
» Ah, c'était tout naturel, mais ah, oui, c'est ça.
Définitivement.
Voilà.
Mais merci encore de ta présence. Pour la petite anecdote, Christine Fortier, qui est dans la salle, journaliste du Voir, qui a fait des critiques métal, quand je voulais avoir des... Elle fait des coucous au loin. Je t'aime,
oui, Christine.
Christine! La première... Moi, je demande 1000 services d'envie, puis une fois, j'ai dit, « Hey, il me semble que j'aimerais ça, ben, prendre des cours de growl. T'aurais-tu quelqu'un à me suggérer? » Elle m'a suggéré Marie-Hélène, qui, tu donnais pas de cours. Et moi, j'ai quand même retenu que, justement, question de larynx, tu m'avais dit, « Descends ta banane. » Et je l'ai toujours retenu.
Mais c'est parce que moi, j'avais dit, je suis pas un prof. Si t'es pas capable, à la limite, j'ai aucunement les capacités de te l'apprendre, mais je vais te montrer ma technique, je vais te dire mes trucs, mes réchauffements, tout, puis après ça, t'explores comme moi j'ai fait.
Et oui, et depuis ce temps-là, la banane est bien grind, est bien dead, et je l'apprécie. Je t'aime aussi, mon Dieu, c'est plein d'élan d'amour, mais t'es une de mes chanteuses préférées, fait que je suis vraiment reconnaissante de ta présence. Vraiment, allez écouter tous ces projets. Je trouve que Marie-Hélène, t'as tellement un chant unique. Tu as une façon vraiment à toi de faire des aigus, de faire des graves. On te reconnaît parmi mille.
Ah, merci, c'est super gentil. Puis j'ai juste comme effleuré le site un matin. C'est super bien fait.
Merci.
Méga travail, méga base de données. Ça nous prenait ça. Merci, les filles.
Yes!
Yes, sir! Bravo! Merci! Yes, sir, mon homme! Sir, mon homme! La prochaine planche, j'ai mis l'influence, une des influences à Marie-Hélène, c'est Anne-Sophie Dascagno, la chanteuse de General Fools, s'il y en a qui la connaissent.
Eux aussi qui ont réédité leur album l'année dernière, c'est très dadon.
Oui, oui, exact. Ils ont fait quelques shows pour souligner la sortie de leur album. Dans le fond, il évoluait en Estrie, dans le coin de Sherbrooke. Puis, Il y avait aussi Blind Remains et Pass Out là, qui faisaient, qui avait des filles qui chantaient là, justement. Là. Mais ceux-là, je les connais moins, puis il n'y a pas grand-chose disponible là, sur les interwebs dans le temps des cassettes. Fait que c'est un passé très lointain.
Il va falloir taper nos cassettes en numérique. Là, question patrimoine, s'il vous plaît.
Prochaine planche, s'il vous plaît. Dans la scène punk, en fait, il y avait beaucoup plus de filles que dans la scène métal, même dans la foule. Et une des pionnières de la scène punk, à mes yeux, à moi, c'est Yannick Langlais.
Oui, complètement.
Yannick, qui ne peut pas être ici ce soir, mais qui fait dire « salut tout le monde », fait vraiment dire « salut à tout le monde », elle ne pouvait pas être là.
Que vous avez connu d'une façon ou d'une autre, elle était derrière les catacombes, derrière l'X. C'est vraiment une personnalité importante dans la scène locale. C'est incroyable ce qu'elle a fait pour nous.
Oui, vraiment. Elle a organisé beaucoup de shows, beaucoup de tournées. Puis son premier band, c'était en 1993. Donc, elle n'était pas vieille. Elle devait avoir à peine 18 ans.
Mais son premier band était à New York.
Oui, elle était allée voir un festival. Si ma mémoire est bonne, elle était descendue à New York voir des chums. Puis là, il y avait besoin d'une chanteuse à y rester. Ça a commencé de même.
Mais là, tu vois, je pense qu'elle s'en va en Suède aussi bientôt, puis elle va justement jouer de la musique. Fait que c'est très nomade, j'adore ça.
Oui. Elle était vraiment mobile, justement, puis elle a eu un band à un moment donné, je pense en Belgique aussi, là. Fait que elle était là en voyage, puis hey, on a besoin d'une chanteuse. OK, go!
Les punks, la communauté.
C'est ça, elle a tout le temps eu des groupes. Ça fait 30 ans qu'elle chante dans des groupes punk, dans des groupes underground. Et puis, elle dit, « Ouais, même qu'avec ma voix, des fois, le monde m'appelle monsieur au téléphone. » Fait qu'elle avait peut-être pas toutes les techniques vocales, mais ça fait son charme. Fait qu'une bonne main d'applaudissement pour Yannick, même si elle n'est pas là.
Oui, grosse pensée pour elle.
Les prochaines, c'est deux petites bébites curieuses. Il y en a une qui est là, justement, Danielle Richard, qui était la chanteuse de La Cage de bruit, qui nous a parlé tantôt de sa transition du jazz vers le... Vous étiez un peu extraterrestre. Elle l'a dit,
expérimental.
Elle aussi.
Album de l'année au Mimi. Ça, c'est avant le Gamic, là, pour les habitués de l'industrie musicale. Là. Ça me fait bien capoter. C'était peut-être le seul album de galage qui a gagné un prix au Québec.
Ouais. Ben, moi, ce que je me souviens de vos prestations, c'était que tu mélangeais tes poèmes avec la musique, puis c'est ça qui détonnait, dans le fond, parce que c'était difficile à classer votre musique, en fait.
Ben, c'est qu'on arrivait du jazz, on était des musiciens de jazz, on aimait l'art contemporain. Moi, je faisais le tour des galeries contemporaines pour m'inspirer, pour écrire. Fait que pour moi, c'était juste un espace où je pouvais m'exprimer sans me faire catégoriser. Fait que j'ai adoré la liberté créative que ça m'a permis d'avoir. Puis ça a donné que ça... Je savais même pas comment appeler notre style.
Liberté, c'est vraiment le mot qui colle à
Pierre Le spoken, puis toutes sortes d'essais, puis humblement.
Mais bravo, parce que justement, ça paraissait que tu donnais sans penser à ce que tu donnais. Tu donnais ce que tu avais envie de donner. Puis ça, ça se transmettait sur scène. Fait que bravo pour ça.
Ben, merci de m'avoir accueilli à tout le monde. T'sais. Merci. Merci de m'avoir accueilli dans ma folie.
Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il faut le dire que quand son groupe est arrivé, c'était très death metal, la scène, à ce moment-là. Fait que les groupes qui étaient un peu extraterrestres, des fois, ça passait moins bien. T'sais. Puis même, je me souviens que Covadis et Unexpect, dans leur début, il y avait une fille qui chantait clean. Puis on était comme, « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » On voulait que ça bûche, on voulait du gros death, on voulait que ça soit vraiment intense. Là, tu voulais prendre le micro aussi ou…
Ça se passe. On va être rendu avec Wizigoth.
Oui, ben c'est ça, la chanteuse de Wizigoth, Sarah. Moi, je ne l'ai jamais vue en show, mais son album il est très spécial aussi. Là, fait que ça, c'est plus dans la scène cross-punk, là, justement. On peut aller à la prochaine planche, s'il vous plaît. Deux autres chanteuses très dettes, très féroces, on pourrait dire.
Quoi que Mel, avec ses nouveaux projets, est aussi drone expérimental dans ses duos, là.
Mais il y a deux filles ce soir qui ont des chandails de Fuck the Facts. C'est la chanteuse Mélanie Mongeon qui est à gauche. Tu sais, que Fuck the Facts, ça a commencé en 99. Ils ont fait des split albums avec des groupes grind de partout dans le monde. Mm. C'est un des groupes underground grind dans les plus respectés, je pense, à travers la planète. Ils ont une super bonne réputation, puis ils font de la super bonne musique. Fait que c'est vraiment très cool que ce soit des Québécois, en plus.
Complètement. En plus, quand elle est arrivée, c'était pas la chanteuse fondatrice du groupe. Je pense que c'était-tu un remplacement?
Ah, ça se peut, oui. Ça se peut que ça soit commencé
mais
comme
c'est que
ça.
Son chum, il était dans le band, puis il était comme, « Veux-tu venir chanter dans mon groupe? » Puis moi, je trouve ça vraiment romantique.
Ah oui, puis ils ont fait des shows cet automne, puis les enfants...
Ils jouent le mois prochain, je suis vraiment excitée! Oui. C'est durant le Aprilis Fest, alors c'est première fin de semaine d'avril. Wow, ça donne bien avec le nom du festival, mais moi, je suis là et je voulais le suggère grandement.
C'est, je pense que ça a l'air aussi.
Effectivement. Ouais. On n'a même pas payé pour cette plug-là.
Excellent. Puis à droite, c'est Amélie, la chanteuse qui a chanté à ses débuts dans Deadly Pale, mais après, elle a chanté dans plusieurs autres groupes. Oui, Rock On. Amélie qui fait dire bonjour aussi, Mélanie aussi. Ils font toutes dire bonjour, ils ne pouvaient pas tout être là.
Oui, on a écrit à toutes les gueuleuses du Québec, là, si vous ne saviez pas. Là, c'est pour ça qu'on les salue et ils étaient avertis de l'événement. Là. Il y a beaucoup de pensées. Là.
Oui, c'est ça, exact. Fait que Amélie aussi, son groupe Deadly Pale était plus punk, plus hybride, mais son vocal à elle, il était très dead, il était très bas, très growl. Puis encore, sa voix est vraiment dead. Là. Moi, je vois pas bas comme ça quand je chante. Là. Elle me clenche bien raide. On peut passer à la prochaine. Ça, c'est juste pour vous montrer rapidement. Comme je disais tantôt, il n'y avait pas beaucoup de gueuleuses, mais il n'y avait aussi pas beaucoup de musiciennes. Il y en avait quelques-unes dans la scène locale. Paul Magnan, qui était la guitariste de TSPC. Catherine, la bassiste de Necronomicon. Il y avait Sylva, la drummeuse de Akuma. Il y avait les filles de Amnésie, José et Linda. Les filles de Schlunk, la drummeuse, a joué aussi avec toi, Stéphanie. Ouais. Exact. Fait qu'il y avait quelques bands quand même. On est encore dans les années 90. T'sais. Moi, j'ai concentré ma présentation vraiment sur les pionnières, vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. On peut aller à la prochaine, s'il vous plaît. Je voulais aussi souligner la part des femmes qui travaillent dans l'ombre. Et j'ai pas mis leurs photos parce qu'elles sont toujours dans l'ombre et elles sont encore dans l'ombre dans ma présentation. Mais il y a Christine Fortier qui est ici ce soir que j'aimerais qu'on applaudisse parce que grâce à Christine qui faisait des chroniques dans Le Voir chaque semaine, elle faisait des chroniques dans Le Voir pour faire découvrir des groupes métal à toute la scène underground de Montréal. Puis pour ça, Christine, on va jamais te remercier assez. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si tu as envie de dire un mot, tu peux t'approcher, viens-t'en.
Elle est remplie de discrétion et on peut aussi souligner 20 ans du Grimoire du métal sur les ondes de CISM.
Ouais.
C'est une émission mythique. Oh, Christine, j'ai même envie de te dire, j'ai un ami dans la salle, il a découvert plein de bandes grâce à toi, puis il était comme, ah, mon Dieu, elle connaît Christine. Fait que il y a comme une rencontre qui doit se faire entre auditeurs et animateurs. Là, ça va être fou.
Fait que les filles qui s'impliquent dans l'underground, soit pour booker des shows, soit pour gérer, soit pour la mise en onde du bourreau métallique, il y a aussi Marie-Pierre qui est là. Mais c'est des filles qui travaillent dans l'ombre, mais que la scène ne serait pas la même sans ces femmes-là. On peut aller à la prochaine diapo. Aujourd'hui, tout est possible. Marie-Claude qui est là aujourd'hui aussi, si tu veux t'approcher puis jaser un peu avec nous autres. En fait, tout est possible. Tous les styles de voix sont possibles maintenant. Puis il y a même une chorale, le Growlers Choir, qui a fait le tour du monde avec America's Got Talent. Corinne qui est là-dedans aussi avec Marie-Claude. Puis il y a la Fabrique de monstres qui engage des chanteurs et des chanteuses death metal pour faire des voix de monstres dans des jeux vidéo ou dans des films. Fait que c'était vraiment génial. Puis tu sais, maintenant, il n'y a plus vraiment de frontières, il n'y a plus vraiment de limites. Parce que aussi, tu sais, nos sources, nous autres, pour nous abreuver, avant, c'était Musique Plus, les radios underground, les radios communautaires, les revues. Maintenant, vous avez ça dans la paume de votre main, dans votre téléphone. Puis tu sais, les filles peuvent vraiment être qui ils veulent maintenant, puis c'est ça la beauté. Je voulais vous dire d'être fière de pouvoir être vous-même, de pouvoir livrer le message que vous voulez de la façon que vous voulez. Puis en tout cas, moi, je suis très fière de faire partie de cette belle gang de gueuleuses-là. Merci.
Yes, yes.
Merci.
Hey, bien, merci à toi. J'ai envie de faire quelques petites mentions des années 2010 plus. Il y a quand même eu des groupes marquants de metalcore. Ce serait dur de passer à côté de l'histoire québécoise sans parler de Diagonist, puisque Angela Wadgloss est devenue la chanteuse de Arch Enemy.
Tu peux mettre la prochaine,
ouais,
s'il te plaît.
Ouais. Ah, mon Dieu, je te stoule.
Non, vas-y. Mais elle est là,
vas-y. Ben, la dissolution, ça a été bien dommage. Il a fallu qu'elle choisisse entre les deux groupes. Mais ça reste un des groupes de Death qui tourne le plus au monde. Et ça reste une Québécoise qui, paraît-il, a encore son appartement ici. Fait qu'on peut peut-être la croiser, mais pas ici.
Oui, puis Girls' School que j'ai mis aussi en finale parce qu'ils font un show à fin mars, 31 mars. Puis la drummeuse, son père, c'est un Québécois. Fait que c'est pour ça qu'elle a un nom québécois. Je pense je me souviens pas son prénom, mais son père s'appelait Marcel.
On le salue.
Fait que elle aussi, son père était Québécois. Fait que j'ai voulu l'inclure.
Oui.
La prochaine diapo, moi, j'ai mis Capture. On est-tu rendu là?
On n'est pas encore rendu là, okay, tout à fait.
Vas-y.
Il y a quand même, moi, je trouve, en ce moment, à Montréal, un regain du hardcore. Il y a quelques semaines, il y a eu le festival Madhouse qui comptait quand même sur des groupes, sur Mulch, Deadbolt, Crush Check. C'est tout avec des chanteuses qui gueulent. Fait que j'ai envie de mentionner cette scène-là. Et on a entendu tantôt Catherine qui est dans No Hope Mankind. Paraît-il que tu fais aussi du beatdown? Alors, peut-être démystifier la chose pour le public. Qu'est-ce que le beatdown?
Dans le fond, le beatdown, c'est très underground. Je te dirais que la scène locale, c'est mondial, dans le fond. Il n'y a pas vraiment de scène locale. Je suis comme la seule fille qui chante du beatdown. Là, je parle pas de hardcore, mais bien du beatdown. Ça a été quand même très dur pour moi de faire mon chemin dans la musique. C'est plus comme... Comment tu pourrais dire que c'est quoi du beatdown, toi?
Comme du hardcore, mais down-tempo.
Ouais, c'est du hardcore down-tempo.
Tu donnes des coups au ralenti.
Ouais, dread ça. Puis c'est très agressif, très, tu sais, c'est juste des hommes, dans le fond, qui, tu sais, comme je pourrais dire, on va jouer en Caroline du Sud au mois de mai, puis je suis la seule femme qui est sur le line-up les deux jours, tu sais.
Excellent, excellent. Ouais.
Merci, merci. Merci.
Oui, tu rappelles surtout que de nos jours, avec Internet, ben c'est vrai que les scènes sont peut-être plus globales aussi parce qu'on peut se rencontrer numériquement, ouais. Mais que question sur le terrain, c'est un peu plus éparpillé.
Mais ça a été dur beaucoup pour moi, malgré tout. T'sais, comme la chanteuse d'Espèce a dit qu'elle a eu beaucoup de hate, ça a été la même chose pour moi.
Oh mon Dieu, encore aujourd'hui, c'est terrible.
Oui, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de misogynie et de choses comme ça. Dans le fond... j'ai été vraiment très attaquée par les hommes dans la scène hardcore, là. Mais j'ai réussi, pareil, à faire mon chemin. Puis,
parce que j'ai pris la posture du taureau, encore une fois.
Ben oui, c'est ça.
Yeah!
C'est ça,
yeah!
Mais on n'a pas le choix.
Mais ça, c'était une affaire que je me demandais. T'sais, je me demandais, c'est-tu une question de parcours ou c'est une question d'année? T'sais, est-ce que rendu en 2024, ça existe encore? Mm.
Ça existe encore,
oui.
Très beaucoup, fait très beaucoup.
C'est le parcours de... Dans le fond, chacune, on doit faire ce parcours-là, finalement. Là.
Oui, oui, vraiment, vraiment. Mais tu sais, quand tu lâches pas, puis que tu prouves que... T'es là, dans le fond, faut que tu prouves que t'es là, mais après ça, le monde, tu sais, il voit que, OK, elle est là, là, tu sais.
On te remercie de ta présence.
Merci.
Très rapidement, moi, j'ai deux points. Y a aussi beaucoup de... On a parlé de médias. Il y a les insoumises. Moi, je tiens beaucoup à... souligner leur travail. C'est vraiment incroyable qu'est-ce qu'ils font comme reportage, photo, comment ils sont sur le terrain, qu'ils sont vraiment présentes pour les minorités de genre. Ils sont aussi très impliqués avec le camp rock. On a Silas qui est présent ce soir pour nous parler. Parce qu'un des points qu'on parle, mais justement, l'accessibilité des salles, comme on parlait avec Marie-Hélène, peut être des fois difficile quand on est mineur. Puis on se demande c'est quoi la relève aussi dans... Bien, le rock en général, bien, heureusement, il existe. Le camp rock!
Oui!
Yes!
Ouais, camp rock!
Hey, oh mon Dieu, moi, j'ai déjà fait le show de financement. Les adultes qui rêvaient de faire du rock, je vous invite à faire le show de financement. Tu joues pas de musique pantoute, t'arrives, ils te donnent une guide, puis tu dis, OK, dans 4 semaines, je vais donner un spectacle. Je vous le jure, c'est vraiment une belle expérience.
Oui, donc pour ceux dans la salle qui ne connaissent pas le Camp Rock, c'est un programme pour les jeunes personnes marginalisées de genre, donc les filles, puis les jeunes trans, non-binaires, puis genre non-conformes. C'est âgé de 10 à 17 ans, puis c'est un peu format camp d'été, puis ils viennent au début de la semaine, on les met en groupe, puis ils ont 5 jours pour créer une chanson, puis à la fin, on les met sur la scène, puis ils performent. C'est vraiment un truc cool, puis tu sais, c'est... vraiment intéressant de voir, les jeunes sont super créatifs, vraiment dans la scène, il y a vraiment des jeunes qui sont super talentueux, puis il y a aussi des jeunes qui sont des gradués de notre programme, qui sont encore en groupe de musique aujourd'hui, qui performent.
Oh, qui enseignent aux plus jeunes! Oh.
Oui, qu'ils sont encore dans la scène, qui jouent encore en tant qu'adultes, sont encore en groupe.
Ah oui! Fait que les groupes, là, je pense entre autres à l'événement York Attack 2, est-ce que c'est des groupes qui sont nés du Camp Rock?
L'édition de l'an passé, il y avait un groupe, les Tittle Strippers, qui sont des anciens du Camp Rock. Je vous les encourage. Ils font un show le 12 avril à Turbo House. Je vous encourage vraiment d'aller les voir. C'est vraiment des jeunes super. Mais les jeunes du Youth Attack 2 cette année, c'est des jeunes qui sont des personnes genre marginalisées de la scène locale. Ils jouent tout un show le 30 mars à la Soterena. Je vous encourage vraiment à venir. Ça va vraiment être une programmation cool. Puis vous aurez l'expérience de voir les artistes émergentes de la scène qui montent puis qui sont mises en valeur, en fait.
Oui, c'est vraiment un beau spectacle d'avoir assisté au show final. Là, vous dites que c'est accessible au public. C'est vraiment très émouvant de les voir maquiller puis se donner. Il y a vraiment une énergie particulière à les spectacles du Camp Rock.
Oui, c'est vraiment le fun. Puis, nous, on enseigne. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans notre programme qui ne savent pas jouer de la musique. C'est leur première fois qu'ils touchent à un instrument. Puis, on les encourage à travers de la création musicale à trouver une voie, à trouver leur place dans la vie en général. Surtout à reconnaître puis à comprendre la discrimination et comment la confronter. Donc, nous, c'est vraiment comme un apprentissage.
J'allais dire, je sens que je vais radoter si je suggère encore la passe du taureau, mais ce sera encore ma suggestion.
Oui, c'est ça.
Hélas.
Tu sais, à booster leur estime de soi. Puis non seulement comme on les apprend les instruments, puis comme comment chanter, mais aussi comme la technique. Genre, comme ça, il n'y a pas des douches qui comme, viennent sur la scène pour leur dire comment l'amp fonctionne. Genre, ils savent déjà. Donc, nous, on les encourage vraiment, puis c'est vraiment intéressant. T'sais, les jeunes viennent la première journée, sont tellement gênés, ils n'ont jamais eu la chance d'avoir une voix dans la scène. Puis à la fin de la semaine, ils sont sur la scène, ils crient, ils sont en train de vraiment être full rock, c'est vraiment le fun.
Ouais. Hey, je tenais à souligner comme initiative, parce que ça existe depuis 2009 à Montréal, ça existe à l'international, ça a été créé à l'Oregon en 2001. Mais moi, c'est il y a à peine moins de 5 ans là, que j'ai découvert le Camp Rock. Fait que merci beaucoup pour ce travail, c'est vraiment très, très apprécié.
Oui, merci. Et si ça vous tente, si jamais, de soutenir notre programmation, puis de soutenir les jeunes, on est un collectif vraiment petit, but non lucratif. On est 7 personnes qui sont bénévoles, qui travaillent là-dedans. Donc, si vous voulez faire des dons, rockcampmontreal.org. Je vous encourage vraiment, tout votre argent va à soutenir des jeunes qui n'ont pas les moyens de venir au camp.
Est-ce que les musiciens peuvent léguer des guides qu'ils n'utilisent plus?
Oui, absolument.
Oh, rendre l'utile à l'agréable. Hein? On prend note, on prend note. Mais merci beaucoup, Silas.
Oui,
c'est vraiment très apprécié.
À vous.
On va terminer ce merveilleux panel avec Shanti Loisel, puisqu'il y a plein de musiciennes ici dans la salle. On veut pérenniser beaucoup de choses. Et je crois que son organisme, Montréal Woman, le fait tout à fait. Allô, Shanti?
C'est pas mon organisme, c'est un organisme de groupe, mais je suis ici represent. Oui, c'est ça. Donc, je suis la responsable du comité marketing communication pour Montréal Women in Music, avec Kyria Kilakos, que plusieurs doivent connaître ici, et Mariana Gianelli. Fait que je vous invite tous. En fait, on a réussi à forcer le Canada à traduire le site de Women in Music Canada en français. Et il y a un répertoire de femmes en musique. Qui est hébergé là-dessus depuis plusieurs années. Donc, c'est un répertoire pour pouvoir faire des recherches de femmes, que ce soit en ingénieur de son, que ce soit artiste, chanteuse de l'industrie, des bookers, tout ça. Donc, on vous invite à aller créer votre fiche, c'est gratuit. Donc, de renseigner tout ce qui est. Donc, on veut envahir la plateforme de francophones et de québécoises et why not de gueuleuses. Donc, je vous invite... Inscrivez-vous, yes!
Yeah!
Ben, je répète, c'est Women in Music Canada. Donc, c'est un organisme international qui a une soixantaine de chapitres sur la planète. Donc, il y a des chapitres nationaux et des chapitres par ville. Donc, nous, on représente Montréal. Puis on essaie de faire de plus en plus de workshops, d'ateliers. Surveiller, là, on s'abrasse ces temps-ci, on se serre les coudes pour faire des choses. Puis, au niveau canadien, donc, elles sont à Toronto. Puis, il y a des groupes au Brésil, au Nigeria. Donc, c'est vraiment un organisme mondial. C'est un organisme qui a beaucoup, beaucoup de chapitres dans des pays d'Amérique latine, d'Afrique, etc. Donc, c'est vraiment intéressant pour créer des ponts avec les femmes dans l'industrie musicale partout sur la planète.
Mais merci, merci. Oui, toujours plus de solidarité. Merci. Merci de votre écoute. C'était un extraordinaire moment. Merci à toutes les gueuleuses qui étaient dans la salle. J'ai une pensée pour Martine de Vingt-Morts, qui est aussi présente dans la salle. Pensez à toutes les gueuleuses aussi qui ne sont pas présentes ce soir. Ça va être place à Capiture. C'est tellement un bon groupe pour ceux qui ne les ont toujours pas vus en spectacle, dont moi. On va vivre un moment. Merci beaucoup.
We'll be right back. Excusez-moi tout le monde, on va avoir besoin de votre aide pour qu'on puisse tasser les chaises avant le début du spectacle ainsi que les tables. Si vous pouviez libérer les tables et les chaises pour que le rock puisse continuer. Merci beaucoup.